Chapitre 11. Samsara ou Nirvana. Mais ceux à qui Dieu a donné l'illumination ont brisé l'ignorance par la connaissance. Et le suprême, comme le soleil, brilla sur eux. Ils se fondirent dans l'esprit des êtres, la lumière éternelle. Et, dans l'action, ne furent pas pollués par elle. Et la mort n'est pas à craindre, même si elle vient à toi. C'est la plus petite des bénédictions. Bhagavad Gita. Un yogi vêtu d'un manteau léger était assis dans une grotte froide. En contrebas, s'écoulait une rivière de montagne, froide même les jours d'été les plus chauds, qui avait creusé les rochers et orné son cours de gorges merveilleuses, dont la plus merveilleuse était un canyon asséché qui coupait la crête. On l'appelait canyon sec parce qu'en été, l'eau s'asséchait et le voyageur qui se promenait dans le lit de la rivière pouvait voir
d'immenses murs étranges de 20 mètres de haut.
Les murs creusés par la rivière montagneuse surplombèrent le voyageur et semblaient sur le point de l'écraser. Mais il pouvait toujours marcher dans le labyrinthe réduit à 1 mètre de ces murs qui,
de temps en temps, montent en toboggan prenant de la hauteur. Sur ces toboggans, à la saison des pluies, coulent des torrents de cascades qui balayent tout sur leur passage et emportent même les troncs d'arbres gigantesques le long du cours d'eau. Ces gorges sont riches en grottes non. Dans la plus grande d'entre elles,
les spéléologues ont déjà découvert des passages s'enfonçant à 11 km de profondeur dans la terre. Mais les plus étonnants des passages qui la relient aux grottes de l'Himalaya n'ont pas encore été découverts. Dans l'une de ces grottes, l'ascète, le maître de l'humanité, Bhagavan, était assis dans la posture du lotus. À côté de lui se trouvait de la nourriture qu'il n'avait pas touchée depuis 40 jours. Et les disciples qui venaient à lui le long de l'étroit sentier de montagne le regardaient avec anxiété. Pourquoi n'a-t-il pas mangé depuis si longtemps? Est-il mort? Ou n'est-il pas encore revenu du monde du samadhi? Son corps était assis dans une grotte, mais son esprit flottait dans des mondes invisibles et étonnants, où il voyait des créatures extraordinaires, des lions ailés, des serpents à 12 têtes, des anges à 6 ailes. Il y avait des spirales d'énergie multicolores qui s'entrecroisaient, d'énormes boules tachetées qui se repoussaient ou se fondaient les unes dans les autres. Mais à présent, il était de nouveau dans son corps. La grotte sombre sembla s'éclairer d'une lueur subtile. Une voix inconnue lui chuchota : « Maintenant, tu peux tout faire, voler, passer à travers les murs, matérialiser des objets. » Bhagavan se syntonisa et s'éleva au-dessus du sol, les paumes jointes saintes, et matérialisa un cristal.
« Non, ce n'est pas pour cela que je pratique le yoga, »
pensa-t-il. Et s'asseyant sur la meule de foin, il jeta le cristal de côté qui s'ébranla en roulant sur le sol de pierre.
« Je veux atteindre Anuttara, Samyak Sambodhi, la libération complète et totale de ce morceau de viande que je pense être. Les vers de terre et les taupes traversent la terre. Les mouches volent et les punaises d'eau marchent sur ces nos femmes. » matérialise non seulement des pierres, mais des êtres vivants entiers pendant la grossesse et l'accouchement. Je veux atteindre l'illumination. Je veux passer du statut de créature pathétique, petite comme un grain de poussière, de cet univers infini à celui de Dieu, en me dissolvant dans cet univers comme une goutte d'eau dans l'océan. Car le vrai miracle n'est pas de voler comme des mouches, mais de voir l'ignorant devenir sage, l'esprit confiné dans la cage du corps devenir infini, la conscience détachée qui pense « je suis le corps, je suis le nom, je suis un humain » s'étendre et devenir l'univers.
devenir l'absolu, atteint le nirvana.
Parallèlement à cette prise de conscience, il recommença à méditer pour atteindre son objectif. Lorsqu'il entra en samadhi, il vit des mondes et des univers merveilleux. Mais il se souvint de ce que le grand maître El Moria lui avait dit. « Rappelle-toi dans le sommeil que tu dors et que tu te réveilleras au matin. En éveil, rappelle-toi que ceci est le sommeil et que la mort est l'éveil. » Il se mit à regarder distraitement les étranges éclairs de lumière, les énormes nuages lumineux et les étoiles scintillantes, les terribles dragons cracheurs de feu qui passaient devant lui en battant bruyamment de leurs immenses ailes. Toutes ces impressions ne l'affectèrent plus, et il se retrouva dans le grand silence, rempli de grâce et de lumière jaillissant de nulle part. C'était le monde de Nirvana dans lequel il commença à se dissoudre. Soudain, en un instant, il devint l'univers entier, toutes les galaxies, toutes les étoiles et les planètes, tous les êtres vivants. Il voyait le monde avec des myriades d'yeux, l'entendait avec des myriades d'oreilles, agissait avec d'innombrables mains et membres. Il était tout et rien à la fois. Ressentait tout ce que tous les êtres perçoivent et expérimentent, et en était détaché. Il était l'absolu. Il était Dieu. Mais maintenant qu'il était de retour dans son corps, il sentait à quel point cette chair et cette personnalité étaient un petit grain de sable insignifiant. Il se sentait à l'étroit, comme dans un cercueil de pierre. Il avait perdu tout sens de l'existence dans cette misérable limitation que l'homme appelle sa vie. Dans ce corps qui étouffait son esprit, il se sentait comme le Christ sur la croix, cloué aux liens de la matière. Il ressentait son corps et sa personnalité comme un cercueil dans lequel son esprit était enterré, et il ne désirait qu'une chose, mourir pour atteindre ce grand état dans lequel il s'était trouvé. Le nirvana samadhi. Cette perception humaine étroite et limitée lui apparaissait comme une petite fente par laquelle il était obligé de percevoir le monde pendant qu'il était dans ce corps. Il se considérait comme un ver de terre rampant dans la terre, alors qu'il était à l'instant même un aigle planant dans les cieux. La mort était une libération de cette misère de l'existence humaine, de cette souffrance constante due à la limitation et à la contrainte de vivre les intérêts de son corps et de sa personnalité mondaine, la vie d'un robot inanimé, de ressentir le froid, la faim, la fatigue et la douleur en permanence, de voir les mêmes paysages lugubres du monde terrestre, de résoudre les problèmes quotidiens du monde. Le seul moyen d'échapper à cette terrible souffrance, à ce hachoir à viande, était le nirvana, dans lequel il espérait se dissoudre complètement, quitter ce corps pour toujours et briser le cercle de la mort et de la naissance. Il décida de continuer à jeûner jusqu'à sa mort, afin de pouvoir aller vers l'éternité, dans la paix et la prière. C'était déjà le 40e jour de son jeûne, ses forces l'abandonnaient lentement. Son corps se faisait déjà sentir faiblement. De vives visions de mondes extraterrestres lui apparaissaient en méditation. Comme d'habitude, au matin, ses disciples vinrent le voir pour faire une méditation commune et s'assirent en demi-cercle autour de leur maître.
Je quitte ce monde, je vais au nirvana, j'ai tout accompli, j'ai atteint l'illumination, j'ai vu la vie telle qu'elle est. Ici, nous vivons dans les cages de notre corps, dans les chaînes de nos perceptions mondaines, agissant comme des esclaves des instincts et des désirs construits en nous par la nature, comme des robots accomplissant le programme social qui nous a été endoctriné dans l'enfance. Nous sommes morts et aveugles. Nous sommes limités et insignifiants. Mais en atteignant le nirvana, je suis devenu l'univers tout entier. J'ai atteint un état de félicité infinie et de liberté absolue par rapport à la forme, au temps et à l'espace. Ne vous laissez pas tromper par vous-même, par ce corps misérable, par votre petite personnalité, par ce monde gris et misérable. Vous surmonterez alors la roue de la mort et de la naissance. Vous sortirez de la cage de votre corps et vous deviendrez un esprit libre, dissous en Dieu, en lui et en l'univers tout entier. Ne vous préoccupez pas de votre petit moi. Vous ne soupçonnez même pas ce que vous pouvez réellement être.
Après avoir terminé son sermon, Bhagavan poursuivit sa méditation, se retirant lentement dans l'éternité. Certains de ses disciples restèrent avec lui pour jeûner jusqu'à la mort et se retirer dans un monde meilleur en prière.
D'autres, qui n'étaient pas encore complètement détachés de la séduction du moi et du monde, décidèrent d'aller dans le monde et de transmettre aux gens la grande connaissance qu'ils avaient reçue du grand maître.
Mais la nuit vint, les premières étoiles s'allumèrent dans le ciel, et le maître était toujours assis dans la posture du lotus, attendant la fin de son existence sur terre. Toute sa vie défilait lentement dans son esprit. Il voyait devant lui des images de son passé dans cette vie et dans d'autres. Il était un petit garçon assis tranquillement sur le canapé et voyait sa grand-mère en train de prier, assise devant une icône dans le coin, près de la fenêtre.
« Grand-mère, que fais-tu ? »
lui demanda son petit-fils.
« Je prie, petit-fils. Je parle à Dieu, le Créateur de notre univers. Il nous aime beaucoup et il veut que nous l'aimions. Et quand tu pries et que la grâce apparaît dans ton cœur, cela signifie que tu as ressenti l'amour de Dieu pour toi. »
Dieu te parle dans la langue de ton cœur. Le garçon s'agenouilla et pria Dieu pour la première fois de sa vie.
Seigneur, je t'aime beaucoup. Je veux être toujours avec toi,
répéta-t-il. Et comme il était ouvert et confiant, la grâce grandit dans son cœur et il fut rempli à ras-bord de l'amour de Dieu. Il ne pouvait rien dire de plus, mais débordant de grâce, il pleura en silence. Il pleurait de bonheur d'avoir ressenti à nouveau l'amour de son père, de s'être ouvert pour recevoir à nouveau son amour dans une série de renaissances. Grand-mère priait matin et soir, mais n'allait jamais à l'église pour ne pas se retrouver en compagnie de vieilles femmes grincheuses et de prêtres décevants dont les baskets et le jeans dépassaient de sous leurs robes. Elle priait Dieu dans le temple de son cœur, plus pur que les églises artificielles dorées et scintillantes. Il se souvient également de son grand-père qui, dans sa jeunesse, avait été l'un des disciples de Gurdjieff. Lorsque la révolution arriva, son grand-père tomba malade et ne put pas partir à l'étranger avec Gurdjieff. Mais lorsqu'il vint le voir une dernière fois avant son départ, Gurdjieff lui dit
« Tu vas rester ici, et c'est ton destin. Mais c'est une bonne chose, car tu vas passer par de nombreuses épreuves ici, bien plus que les autres qui quittent le pays. Et toi, en pratiquant un saint effort dans ces souffrances, tu pourras rassembler toute la spiritualité que les gens ont perdue dans le chaos de la Révolution. Je t'ai transmis plus de connaissances qu'à d'autres, et peut-être qu'un jour tu les transmettras à tes descendants. »
Grand-père survécut à la faim, à la guerre, au camp. Il fut exilé de la capitale dans l'un des endroits les plus rudes du pays. Mais en dépit des terribles difficultés et privations qui lui tombèrent dessus, il pratiqua un saint effort, constamment attentif à Dieu, observateur de lui-même et vigilant. Dans le monde qui l'entourait, son attention était dirigée dans trois directions: vers Dieu, vers lui-même et vers le monde en même temps. Et cette grande pratique lui permettait de développer sa conscience. Grand-père apprit à son petit-fils à jouer sur un vieux piano.
« Tiens, regarde, »
lui dit-il.
« Le piano a 7 octaves pleines. Ce sont 7 mondes, notre monde et 6 mondes subtils. À l'extrémité du clavier se trouve la note Do de la 8e octave. C'est l'absolu. Et dans le registre inférieur se trouve une octave inachevée de 3 notes. C'est le monde inférieur inachevé. » Ainsi, dans la structure du piano, les anciens sages ont établi les lois de l'ensemble du cosmos.
Le petit-fils écoutait avec intérêt tout ce que son grand-père lui apprenait, et bientôt il apprit à jouer la musique magique des sphères célestes, où chaque note avait sa propre signification. De nombreux autres souvenirs traversèrent l'esprit de Bhagavan. La mort s'approchait lentement de lui, sa respiration devenait plus faible et le rythme de son cœur commençait à ralentir à chaque minute qui passait. Puis, comme si un éclair traversait le ciel, il vit devant lui 1000 visages de Bouddha, Krishna, Allah, Jéhovah, Shiva, Zervan et des millions d'autres formes du Dieu unique. Et il réalisa que Dieu lui-même lui était apparu.
« Mon fils !»
dirent des milliers de bouches d'une voix tonitruante.
« Tu as atteint le nirvana, mais je te prépare une autre tâche. Va enseigner aux gens cette grande vérité que tu as toi-même réalisée, et après leur avoir transmis ta connaissance, reviens vers moi. Reviens vers moi. » reprit la voix tonitruante, et la vision s'évanouit.
Bhagavan resta assis, abasourdi par ce qui venait de se passer, mais reconnaissant la volonté de Dieu, il s'inclina vers la terre et dit
« Que ta volonté soit faite, que ta volonté soit faite, que ta volonté soit faite !»
Et se relevant de sa prosternation terrestre, il se résolut à accomplir le commandement du Père de l'univers. Rassemblant ses disciples, il leur annonça le commandement de Dieu.
« Comment allons-nous réveiller les gens des ténèbres de l'ignorance ?»
demanda l'un des disciples au maître.
L'égrégore de lumière du cercle des prêtres de Kailash nous y aidera. Un égrégore est un être du monde subtil. Certains sont comme des anges et d'autres comme des démons. Ils sont porteurs de grandes idées ou d'idées destructrices. Et lorsque les gens se connectent à ces égrégores et leur donnent leur amour et leur dévotion, l'égrégore les aide à suivre son chemin, à réaliser ses idées. Par exemple, l'égrégore communiste destructeur, incarné physiquement par Marx, Lénine, Staline, inspirant les gens à la révolution, leur donnant un grand pouvoir pour la mener à bien. À la même époque malheureuse, il y avait un autre être démoniaque sur Terre, l'égrégore fasciste, dont le guide était Hitler. Ces égrégores se sont battus entre eux pour la domination du monde. Cela s'est manifesté par la Deuxième Guerre mondiale, au cours de laquelle l'égrégore fasciste est tombé, et l'égrégore communiste a été gravement blessé, et s'est rapidement desséché, et Hébert est mort. Il y a aussi des égrégores de lumière de Bouddha, du Christ, Mahomet, Zarathoustra sur la Terre. Mais à notre époque, ils ont complètement perverti leur essence originelle. Ils sont presque morts. Il n'y a pas de saint dans le christianisme, l'islam. Dans le bouddhisme, il n'y a pas d'illuminé. L'égrégore zoroastrien est lui aussi presque mort. Et seul le plus grand égrégore du cercle des prêtres de Kailash, formé par l'être le plus grand de notre système solaire, Rigden Japo, est encore en vie. Cet égrégore se situe au-dessus de toutes les petites religions, christianisme, islam, bouddhisme, car il n'est pas régional, mais universel. Et c'est à notre époque, alors que notre terre devient progressivement un seul état, que l'égrégore du cercle des prêtres de Kailash a commencé à se manifester pour apporter à la terre une nouvelle religion unique et en même temps la religion la plus ancienne, les enseignements dont toutes les autres religions sont issues. Le cercle des prêtres de Kailash a lancé son appel par l'intermédiaire des Rurikes, de Blavatsky, de Gurdjieff, de Sri Aurobindo, de Rajneesh, de nombreux enseignants tibétains et hindous. Et maintenant, le seigneur du cercle des prêtres de Kailash Rigden Japo m'a ordonné d'incarner physiquement cet égrégore sur Terre, qui diffusera ses enseignements au monde entier, lui apportant bonheur et prospérité. Mais ce n'est pas une tâche facile, car de nombreux démons obscurs ne veulent pas que la Terre soit nettoyée du mal. Et nous nous heurterons à leur résistance désespérée. Ces démons peuvent ainsi prendre la forme de prêtres, de membres de partis, d'autorités, d'assassins et de criminels. Mais nous devons résolument donner la lumière, la joie et le bonheur à tous les habitants de la Terre, en apportant la grande connaissance aux âmes humaines perdues. Et alors, dans le nouveau millénaire, l'ère du bonheur et de la prospérité s'ouvrira sur la Terre.
Que faut-il faire pour accomplir cette tâche ?
Demanda Mahapadma.
Pour ce faire, il faut se connecter à l'égrégore du cercle des prêtres de Kailash en chantant le mantra Ahashambhu Itahahum avec dévotion et engagement. Et si vous vous connectez correctement, la grâce, la joie, le bonheur et la puissance rempliront votre être. Vous pourrez alors accomplir n'importe quelle tâche dans cette vie, pourvu que vous le fassiez pour la gloire de la grande cause du cercle des prêtres de Kailash dans ce monde. Que mes bénédictions vous accompagnent. Om. Bhagavan, le sauveur de l'humanité, termina sa proclamation. Et tous ses disciples, levant les mains vers le ciel, lui firent écho avec le son Om.
Souhaitez-vous en savoir plus ? Regardez le chef-d'œuvre animé qui révèle les mystères d'humanité. Découvrez plus de connaissances sacrées dans les livres. Vous pouvez rencontrer les personnages principaux des livres lors de nos séminaires. Trouvez votre amulette de puissance. Participez à un rituel individuel. Ouvrez la chaîne gratuite avec des pratiques spirituelles quotidiennes pour vous-même. Vous trouverez tout cela sur notre site web www.amazon1.org. Partagez ce livre et répandez la grande connaissance. La vie des gens changera pour le mieux, ainsi vous accumulerez du bon karma et serez en mesure d'aider tous vos proches.